VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 19 décembre 2022. Kigali salue la décision de la justice britannique d'expulser des migrants vers le Rwanda. En Afrique du Sud, l'ANC renouvelle sa confiance au président Cyril Ramaphosa. Au Soudan, tirs de gaz lacrymogène contre des manifestants protestant contre l'accord entre les militaires au pouvoir et des groupes civils. Accord historique à la COP15 au Canada pour mieux protéger la biodiversité de la planète.
Si nous prenons par exemple les banques génétiques qui existent à travers le monde, elles ne sont pas en Afrique, elles ne sont pas là où il y a la biodiversité.
Cheikh Mbo, directeur du Centre de suivi écologique du Sénégal, que nous retrouverons dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, après 18 mois de travaux, la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole rend ses conclusions. Mondial 2022, au lendemain d'une finale de légende, l'Argentine tout entière attend ses héros. 3 étoiles, bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. La justice britannique a donné son feu vert aujourd'hui à l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni, un projet hautement controversé que Londres veut déployer au plus vite. Jacques Aristide.
La haute cour de Londres juge légal l'envoi des demandeurs d'asile au Rwanda afin que leur demande d'asile soit examinée dans ce pays plutôt qu'au Royaume-Uni. Elle est également d'avis que les dispositions prévues par le gouvernement britannique ne contreviennent pas à la Convention de Genève sur les réfugiés. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak veut désormais presser le pas. Les expulsions vers le Rwanda ne représentent qu'une partie de notre plan contre l'immigration illégale, a néanmoins expliqué le Premier ministre. Il a promis un système où si vous arrivez au Royaume-Uni illégalement, vous n'aurez pas le droit de rester. Les opposants au projet ont accueilli le jugement avec déception et colère. Le Refugee Council qualifie cette politique de cruelle, alors que des ONG comme Care for Calais et Detention Action envisagent de faire appel du verdict. Le Rwanda, pour sa part, dit saluer le jugement. Nous sommes prêts à offrir aux demandeurs d'asile et aux migrants l'occasion de bâtir une nouvelle vie au Rwanda, déclare Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement de Kigali, en parlant d'une mesure positive pour résoudre la crise mondiale des migrations.
Les magistrats gabonais ont entamé aujourd'hui une grève générale illimitée sur tout le territoire, exigeant notamment une revalorisation salariale et un changement de statut, a indiqué le président du syndicat national des magistrats du Gabon. Un service minimum sera néanmoins assuré, selon le président du CINAMAG, qui précise que les audiences d'urgence seront maintenues, mais qu'il n'y aura plus d'audience publique. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi les locaux de la délégation de l'Union européenne en Centrafrique. Sans faire de blessés, a annoncé aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne en République centrafricaine. La toiture était particulièrement endommagée, des objets calcinés, des ordinateurs jonchaient le sol. En début d'après-midi, les causes de l'incendie n'étaient pas précisées par les autorités. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a réélu lundi à sa présidence Cyril Ramaphosa, presque assuré d'un second mandat à la tête du pays en cas de victoire de son parti aux élections générales en 2024. Rosine Monizero.
Cyril Ramaphosa, 70 ans, qui partait favori malgré un scandale et une procédure de destitution déjouée quelques jours avant le vote décisif, a remporté 2476 voix contre 1897 pour son seul rival et ex-ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Une bonne nouvelle pour le parti et pour le pays, a déclaré à la presse le porte-parole du président Vincent Magwenya, se disant convaincu qu'avec une confiance renouvelée, le président aura désormais le champ libre pour mener à bien les réformes institutionnelles et économiques entreprises. L'incertitude a plané jusqu'à la dernière minute, des tractations au sein du parti profondément divisé faisant courir la rumeur d'une possible défaite de M. Ramaphosa, gêné depuis des mois par une sombre affaire de cambriolage. Cyril Ramaphosa était menacé d'une procédure de destitution. Il n'est pas inculpé dans le cadre de cette affaire, mais l'enquête de police se poursuit. S'il était rattrapé par le scandale, la Constitution prévoit que son vice-président lui succède.
Le parquet sénégalais a requis aujourd'hui 2 ans de prison ferme contre 2 députés d'opposition jugés à Dakar pour avoir frappé une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale, incident qui a fait scandale dans le pays. L'un des avocats de la défense, Maître Adam Afal, a plaidé que le procès ne pouvait avoir lieu compte tenu de l'immunité parlementaire de ses clients, mais la cour est passée outre. Après avoir disparu plusieurs jours, les 2 députés se sont présentés le 12 décembre à l'Assemblée. Ils ont été placés en garde à vue, puis écroués. Les organisations professionnelles de médias au Burkina Faso ont déploré la volonté des autorités de contrôler l'information, regrettant notamment la suspension de Radio France Internationale. On assiste à une remise en cause du libre exercice des professionnels des médias, avec au quotidien des menaces de sanctions de la part des autorités et une terreur exercée sur les journalistes par des groupuscules instrumentalisés au sein de la population, dénoncent dans un communiqué les responsables d'une dizaine d'organisations professionnelles des médias. Au Soudan, des milliers de personnes ont manifesté ce lundi contre un récent accord entre les militaires au pouvoir et des groupes civils censés sortir le pays d'un an de crise politique, mais rejeté par les partisans de la démocratie. Nani Talani.
Des manifestants ont appelé les militaires à rentrer dans leurs casernes. « Vous ne pouvez nous gouverner avec cet accord », ont-ils aussi scandé, en faisant allusion à l'accord cadre signé le 5 décembre entre les militaires au pouvoir et plusieurs groupes civils, notamment les FFC, dont les représentants avaient été évincés lors du putsch de 2021. Cet accord, très général et fixant peu d'échéances, est jugé vague et opaque. Les critiques doutent de sa capacité à résoudre l'impasse politique dans laquelle le pays est plongé depuis 13 mois. Les manifestations de ce lundi marquaient aussi le 4e anniversaire du lancement de la contestation ayant abouti au départ de l'ex-président Omar El-Béchir qui a dirigé le Soudan pendant près de 3 décennies. Il est aujourd'hui en prison. Des protestataires portaient des drapeaux soudanais et des affiches pour les victimes de la répression des protestations chiffrées à des centaines de morts et des milliers de blessés. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution de décembre, j'espère que le processus politique réalisera les revendications et les aspirations des hommes et des femmes soudanais qui sont descendus dans la rue il y a 4 ans et continuent à lutter pour un avenir de paix, de démocratie, de droits de l'homme et d'égalité des citoyens, a tweeté la représentation spéciale de l'ONU pour le Soudan. Les autorités ont décrété un jour férié et les forces de sécurité ont fermé les ponts menant à la capitale, ainsi que les routes menant au quartier général de l'armée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, après 18 mois d'enquête, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole livre ce lundi ses conclusions. Les parlementaires sont en travaux en ce moment même et doivent voter pour recommander ou non des poursuites pénales contre Donald Trump, l'ancien président, et certains de ses proches. Le point avec Abdou Ramandia.
Les élus qui composent cette commission, 7 démocrates et 2 républicains, tiennent une audition publique à partir de ce soir pour présenter les 8 chapitres de leur longue investigation sur le 6 janvier 2021. Ce jour-là, des partisans de l'ancien président Donald Trump, affirmant comme lui que la présidentielle de 2020 lui avait été volée par Joe Biden, avaient attaqué le siège du Congrès à Washington. Des images qui avaient choqué l'Amérique avaient fait le tour du monde. L'un des moments les plus attendus de cette audition publique de ce lundi sera sans doute l'annonce de la décision de recommander ou pas au ministère de la Justice d'inculper Donald Trump d'appel à l'insurrection, d'entrave à une procédure officielle et de complot à l'encontre de l'État américain. Ces chefs d'accusation peuvent entraîner des peines de prison et l'interdiction d'assumer toute fonction publique aux États-Unis, alors que l'ancien président a annoncé qu'il se relançait dans la course à la Maison-Blanche pour 2024. D'autres personnes dans l'entourage de Donald Trump devraient être concernées. Le rapport d'enquête final sera publié le 21 décembre.
L'administration Biden a nommé aujourd'hui Joe Kennedy III, descendant de la longue dynastie des Kennedy qui ont tant dominé la vie politique américaine, émissaire spécial pour l'Irlande du Nord. Le poste a été récalibré. Il sera tout particulièrement chargé de l'économie et de la promotion des investissements et du développement en Irlande du Nord, selon un communiqué du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Et puis les États membres de l'Union européenne ont approuvé aujourd'hui un mécanisme permettant de plafonner les prix de gros du gaz à partir de 180 euros le mégawatt, indiqué la ministre maltaise de l'énergie, confirmant plusieurs sources diplomatiques. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Et le sport, tout de suite, c'est avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le mondial a fini en apothéose avec la victoire de l'Argentine.
Tout à fait Jean-Roger, les champions du monde aux 3 étoiles de Lionel Messi retrouvent dans la nuit de lundi à mardi Buenos Aires, résolu à prolonger la fête. Malgré déjà une nuit de liesse après une finale de légende, 2 buts de Lionel Messi et 1 triplé de Kylian Mbappé, les stars ont été au rendez-vous d'un match fou qui vient couronner l'immense carrière de Messi, immédiatement désigné meilleur joueur du tournoi. Suivez le commentaire de Tarsis Harerimana, journaliste olympique indépendant.
Oh oui, c'est une histoire fabuleuse de cet enfant né à Rosario le 24 juin 1987. Rappelez-vous, Eric, atteint d'un problème de croissance et qui fut sauvé par Adieu et le club de Barcelone qui le propice au sommet du football mondial. Lui qui a des origines catalanes, italiennes, ses grands-parents ayant émigré en Argentine au 19e siècle, va donc offrir au Barça 10 titres. De champion d'Espagne, 4 ligues des champions, 3 coupes du monde de clubs, 7 ballons d'or, et puis à cette équipe d'Argentine, son pays, en titre olympique en 2008. J'étais là, en Chine, une Copa América et une Coupe du Monde, la 3e de l'histoire. C'est comme c'était prédit, il est véritablement le successeur de Diego Maradona et devient sans doute le meilleur joueur du football de ce 21e siècle.
Une Coupe du Monde qui va porter sa marque.
Qui va porter sa marque. Et Messi, donc, offre ce cadeau au peuple argentin. Merci Messi, le Messi annoncé et révélé au peuple depuis le décès de leur idole, Diego, le 25 novembre 2020.
Merci beaucoup.
Ah, merci et toi aussi, Eric, de ta passion et tout ce que tu as fait. C'est magnifique, c'était bon.
Merci.
Merci.
L'autre star de ce mondial, Kylian Mbappé, qui a ramené son équipe à hauteur en quelques secondes, meilleur buteur du tournoi. Mbappé est devenu dimanche le 2e jour à réussir un triplé en finale de Coupe du Monde. Il faut aussi, Jean-Roger, souligner l'épopée du Maroc, première pour l'Afrique, portée par une ferveur populaire impressionnante. Le Maroc a brisé un plafond de verre en atteignant le dernier carré d'une Coupe du Monde pour la première fois pour une équipe africaine. Les clés du succès et perspectives dans ce reportage de Amine Birouk, notre consultant sportif.
Combien d'aficionados du football auraient imaginé au début du mondial que le Maroc finirait dans le dernier carré de la compétition ? Combien de spécialistes auraient pu concevoir que les Lions de l'Atlas seraient la sensation de la compétition, non seulement au plan des résultats, mais également eu égard à la qualité du jeu proposé par les représentants du royaume chérifien ? La réponse coule de source, très peu, voire personne, y compris les inconditionnels du Maroc. Et pourtant, c'est une vraie success story qui a été conçue chapitre par chapitre par les poulains de Walid El Greghi. Ce dernier a bâti un commando et a surtout mis au diapason des valeurs qui sont devenues les recettes du miracle marocain. Tout d'abord un état d'esprit, un sens du sacrifice et du collectif enseigné dans les écoles de football. Le slogan « Tous pour un » et un pour tous, a été une des clés, mais pas la seule, de cette aventure. Il y a également un plan tactique qui a mis en difficulté les cadors belges, espagnols et portugais et poussé la France dans ses derniers retranchements. Enfin, le sélectionneur a tenu à ses joueurs et aux médias un discours décomplexé. Un slogan qui ressemble comme deux gouttes d'eau au fameux « Yes, we can ». Le Maroc et l'Afrique doivent jouer sans complexe et surtout aspirer à viser la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Maroc a trouvé sa place dans le Gotha du football mondial. Il a placé la barre très haut et comme tout le monde le sait, le plus difficile est de se maintenir à ce niveau. Ce qui suppose se fixer des challenges aussi importants que gagner la prochaine CAN en Côte d'Ivoire et revenir au Mondial 2026 dans la peau de l'équipe à battre. Deux défis que les Lions de l'Atlas devront relever sous peine de rentrer dans les rangs et surtout décevoir leurs fans qui pourraient alors se rendre compte que l'aventure du Qatar 2022 n'aura été qu'un feu de paille. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk, pour la VO Afrique.
Le mondial 2022 a brouillé les repères des grandes nations et favorisé les surprises outre le Maroc. L'Arabie Saoudite a ainsi fait déjouer l'Argentine en ouverture. Le Japon a battu tour à tour l'Allemagne et l'Espagne pour finir en tête du très relevé groupe E. Les gardiens se sont signalés au Qatar en particulier à partir de la phase à élimination directe. Jean Roger.
Merci Eric Manirakiza. Vous écoutez VOA Afrique, Jean-Roger Billon de nouveau avec vous pour les dossiers du jour. La COP 15 de Montréal sur la biodiversité s'est terminée ce lundi par un accord qualifié par beaucoup d'historique pour tenter de stopper la destruction de la nature et empêcher une sixième extinction de masse. À quoi l'humanité peut-elle réellement s'attendre de cet accord? Pour des éclaircissements, Rosine Mounizero a joint Cheikh Mbo, directeur du Centre de suivi écologique du Sénégal.
Les négociations multilatérales prennent en compte les préoccupations des pays pauvres qui sont pour l'instant les endroits où l'essentiel des solutions, que ce soit biodiversité ou climat, vont se gagner ou se perdre. Et dans le cadre de la biodiversité, on sait tous que les pays tropicaux, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Indonésie, etc., constituent les endroits qui sont les plus appropriés pour apporter un peu une réponse à cette menace d'extinction des espèces qui sont liées à plusieurs facteurs. Je crois que cet accord nous permet d'avoir une pierre blanche dans l'avenir de la gestion de la biodiversité parce que ça va permettre de mettre en œuvre les accords sur l'équité en matière de biodiversité, mais aussi ça va permettre d'avoir le consentement prioritaire qui permet aux pays de pouvoir bénéficier des ressources naturelles dont elles disposent et qui ont été depuis très longtemps exploitées injustement par les grandes firmes internationales dans les pays développés. Et l'autre caractère historique pour moi de ces négociations, c'est le côté financier, parce que pour préserver la biodiversité, il va falloir accepter de mettre sur la table de l'argent. Évidemment, on n'est pas au même niveau que l'espoir qui a été porté par ces négociations, mais ce qui a été proposé permet de pouvoir structurer des programmes majeurs de gestion de la biodiversité et surtout des programmes qui vont aller à l'endroit des peuples autochtones. Je veux rappeler ici que ces peuples autochtones gèrent dans une très large mesure la biodiversité dont la planète a besoin pour pouvoir répondre à ces grands défis environnementaux.
Alors, le plan décennal précédent signé au Japon en 2010 n'a atteint quasiment aucun de ses objectifs, notamment en raison de l'absence de mécanismes d'application véritables. Qu'en est-il de celui-ci? Y a-t-il des mécanismes pour justement éviter qu'il soit un accord sur papier?
Oui, pour moi, d'abord, les accords de Nagoya devraient venir avec une connaissance assez précise de la biodiversité dans les sites où cette biodiversité a une signification particulière. Et l'essentiel de ces informations, évidemment, sont les informations qui existent de ces sites sont détenues pour l'instant au niveau des pays qui ne sont pas les pays qui abritent cette biodiversité. Donc, il y a un premier niveau d'équilibre qu'il faudrait revisiter, c'est qui détient l'information et qu'est-ce qu'elle fait de l'information. Si nous prenons, par exemple, les banques génétiques qui existent à travers le monde. Elles ne sont pas en Afrique, elles ne sont pas là où il y a la biodiversité.
Voilà, c'était Cheikh Mbo, directeur du Centre de suivi écologique du Sénégal.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
L'heure est au bilan du sommet États-Unis-Afrique tenu la semaine dernière ici à Washington, la capitale américaine. Quel dividende pour le continent pour répondre à la question et à quelques autres. Eddie Sango a reçu dans nos studios le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa.
Il faut avouer que ce sommet était une belle occasion pour que l'Afrique s'exprime d'une seule voix sur les questions qui lui sont communes, les questions relatives au commerce, les questions relatives au développement économique en général, les questions relatives à l'agriculture, au développement des infrastructures et tant d'autres questions encore. La République démocratique du Congo au sein de l'Afrique se retrouve dans la situation où ces questions sont des questions primordiales. Nous sommes membres de la zone de libre-échange continentale africaine, nous sommes bénéficiaires de la loi AGOA, cette loi qui donne des préférences à certains pays africains, des commerciers aux États-Unis sans paiement des droits des douanes. Vous savez qu'il y a un lien étroit entre le commerce et la production en passant par les investissements. rapidement là-dessus, la République démocratique du Congo a fait valoir l'idée qu'il n'y avait pas de commerce robuste sans investissement robuste. Et donc nous avons souhaité, comme tous les autres pays africains, qu'étant donné les bénéfices que procurait cette loi AGOA, il était nécessaire qu'on puisse, les États-Unis puissent proroger, n'est-ce pas, la loi après 2015, donc date limite de l'application de cette loi, donc de 2025 à 2035, donc une prorogation de 10 ans. Pour tirer le meilleur parti de cette loi et avoir une prévisibilité par rapport aux politiques économiques internes, notamment les politiques en matière de production et aussi des politiques en matière d'exportation. Ça a été bien entendu par la partie américaine, notamment les sénateurs et les membres du gouvernement américain qui ont été avec tous les ministres du commerce africain dans ces chapitres-là. Donc pour notre part, c'est une perspective intéressante. Notre part, ça vient de la République démocratique du Congo. La perspective est intéressante. Il nous appartient de mettre en place des politiques économiques à même de pouvoir capter cette opportunité. Et en République démocratique du Congo, nous avons la stratégie nationale de promotion et d'exportation ainsi que de la diversification des marchés qui est en train d'être inspirée. Elle sera approuvée par le gouvernement dans les semaines qui suivent et elle nous met en adéquation avec ce choix de pouvoir bénéficier de la loi AGOA.
Quel autre dividende pouvez-vous citer?
Deuxième chose, pas moindre, c'est aussi le fait que la RDC a beaucoup insisté sur la transformation de ses produits sur place au Congo, les produits miniers qui sont exportés en brut, les produits agricoles qui ne sont pas suffisamment exploités mais dont les importations ne représentent pas grand-chose aujourd'hui. Nous avons insisté sur le fait de l'investissement privé dans ces secteurs. Nous avons indiqué que la RDC a amélioré l'environnement des affaires. Aujourd'hui, notre environnement des affaires devient de plus en plus propice.
Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le gouvernement camerounais annonce des mesures incitatives pour un retour au bercail de sa diaspora médicale. Ces mesures ont été présentées par le ministre de la Santé publique à l'occasion de la conférence médicale nationale qui s'est tenue à Yaoundé. Cette annonce fait suite à une réunion entre le ministre de la Santé publique et plus de 1500 personnels de santé camerounais opérant à l'étranger. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jolinta.
Le Cameroun accuse un déficit de 57 000 personnels de santé d'après les statistiques du ministère de tutelle. Certaines spécialités médicales sont peu répandues dans le pays à cause du manque de spécialistes locaux. Le gouvernement veut faire recours à la diaspora médicale camerounaise pour juguler le problème. Docteur Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Il y a plusieurs leviers qu'ils peuvent utiliser pour nous aider. Le premier levier qu'ils peuvent utiliser, c'est simplement dire « je vais venir m'installer au Cameroun ». Et nous allons faciliter leur installation dans notre service. Second levier qu'ils peuvent utiliser, c'est de dire, je suis dans une formation sanitaire ici. Nous voulons favoriser cette collaboration entre les formations sanitaires pour qu'il y ait transfert de technologies, transfert de compétences.
Le gouvernement s'est aussi engagé à encourager le tourisme médical. Ainsi, les médecins de la diaspora peuvent transférer leurs compétences dans les structures sanitaires de leur choix pendant leurs vacances au Cameroun. Mais il y a encore des points d'incertitude sur les bonnes intentions du gouvernement. Docteur Samuel Ndokmo, président du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur et médecin spécialisé en cancer génétique depuis 25 ans aux États-Unis.
La diaspora camerounaise a besoin qu'on clarifie son problème de citoyenneté. Il y a le problème de la double nationalité. La plupart de ces gros experts médicaux qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en France, il n'y a même pas 5% qui ont gardé la nationalité camerounaise, ce qui est normal au Cameroun. Certaines de ces réglementations, il faut l'avouer, n'ont pas été taillées pour la diaspora. Ouvrir par exemple une clinique, ouvrir une pharmacie, il faut être inscrit à l'ordre des médecins au départ. Donc il y a tout un processus, un parcours qui est un peu compliqué.
Néanmoins, près de 1500 médecins camerounais de la diaspora ont échangé au début de ce mois avec le ministre de la Santé publique en vue d'une éventuelle collaboration avec le gouvernement. Vanessa Aboudi est associée de recherche à la Fondation Denis et Lorena Fulgetia à Yaoundé. Elle pense que certains médecins de la diaspora pourrait vite déchanter.
On va demander à un jeune médecin d'aller dans une région où il n'y a pas d'infrastructure hospitalière. Il va se retrouver dans une région où il n'y a même pas des infrastructures pour opérer. Alors ça cause problème parce qu'il va vouloir être dans des conditions où sa matière grise est véritablement prise en compte avec le milieu qui va avec.
Le gouvernement indique pour sa part avoir amélioré le plateau technique, les pratiques professionnelles dans certaines régions du pays et mis en fonction des hôpitaux de référence. Des avancées qui, d'après le ministre de la Santé publique, sont propices à plus de collaboration avec la diaspora médicale camerounaise. Emmanuel Jontap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, le temps presse pour les législateurs appelés cette semaine à adopter un projet de loi massif finançant le gouvernement fédéral jusqu'en septembre prochain. Le budget militaire et de nouvelles aides à l'Ukraine font partie des éléments importants en cours de négociation. Catherine Gibson, la correspondante de la VOA au Congrès, nous en dit plus. Le récit est de Jacques Aristide.
L'administration du président Joe Biden envisage de fournir à l'Ukraine le système antiaérien Patriot pour contrer l'agression russe. L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis est d'avis que ce soutien est vital. Oksana Markarova intervenait dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il y a une attaque massive contre les infrastructures civiles. 50% du réseau énergétique est détruit. Nous devons l'arrêter. Et la seule façon de le faire est d'augmenter les défenses aériennes partout en Ukraine.
Les élus américains tentent de mettre les bouchées doubles en cette fin d'année pour finaliser une série de projets de loi visant à financer le gouvernement pour l'exercice en cours. Mais ils n'ont pas pu parvenir à un accord sur la réforme de l'immigration au moment même où le Title 42, une politique mise en place pour limiter l'immigration durant la pandémie de Covid-19, arrive à terme ce mercredi. Le sénateur démocrate Joe Manchin.
Le Title 42 doit être prolongé jusqu'à ce que nous puissions vraiment, vraiment réformer l'immigration.
Les républicains avertissent que la suppression des procédures pour limiter l'immigration pourrait provoquer une crise à la frontière. Pour Tony Gonzalez, élu républicain du Texas, la situation est désastreuse. Il prenait part au programme Face the Nation de la chaîne CBS.
C'est un ouragan d'immigrants et tout le monde en subit l'impact.
Quant à la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, elle publie son rapport cette semaine. Au cours de Inside Politics de CNN, l'élu démocrate Adam Schiff indique que des actes d'accusation sont attendus.
Je pense que les preuves sont là, montrant que Donald Trump a commis des infractions pénales dans le cadre de ses efforts pour faire annuler les élections. Et, en ma qualité d'ancien procureur, je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour l'inculper.
Il ne reste que 5 jours de travail pour le Congrès américain avant les vacances de fin d'année. En janvier, un nouveau Congrès prêtera serment avec une majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. We'll be right back.
Rosé, that's